Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Et voilà, c'est sur ces bruits de mer pour détendre notre invité Charlie Divry. Je suis ravie de recevoir en direct sur notre antenne. Bonjour Charlie. C'était pas le bon micro que j'avais envoyé. Bonjour Charlie.
Bonjour Odile, bonjour à toutes.
C'est un magazine qui commence fort aujourd'hui. Bon voilà, on était en bord de mer, c'est bien, ça nous fait
toujours
nous poser.
J'adore.
Alors Charlie Divry, on vous connaît puisqu'on vous a déjà reçu dans l'émission La Fesse, la fabrique de l'économie sociale et solidaire par Pascal Jeanne sur Fréquence Mistral Digne. Aujourd'hui, vous allez nous parler évidemment un petit peu quand même de réseau initiative puisque vous êtes toujours, vous dépendez toujours de ce réseau initiative Alpes-Provence. Et puis on viendra sur votre nouvelle fonction et on parlera du dispositif pour et pourquoi pas moi.
Oui, c'est entre autres, oui.
Voilà, alors on va commencer sur le réseau initiative et puis peut-être qu'on dira deux mots aussi sur le Koh-Lanta de l'entrepreneuriat qui s'est plutôt bien passé.
Super, oui, ça a été une chouette journée pour les équipes de l'antenne de Digne et les bénévoles et partenaires aussi qui étaient mobilisés. Effectivement, on reviendra dessus avec plaisir.
Alors, le réseau initiative.
Donc, le réseau initiative, c'est un réseau national avec plus de 200 associations au niveau national. Et nous, on fait partie de ce réseau-là, l'association Initiative Alpes-Provence. Et donc, on est sur le 04 et le 05. On a 4 antennes, 30 salariés répartis sur ces 4 antennes. Et on couvre donc un territoire assez large. Notre objectif, cœur de métier au niveau de l'association, c'est l'accompagnement des entrepreneurs dans leurs projets d'entreprise et principalement le financement de prêts à taux zéro pour pouvoir faciliter le démarrage de leur activité et la levée de fonds également puisque c'est couplé à des prêts bancaires. Donc ça c'est pour grosse moitié et même un peu plus l'activité même historique du réseau Initiative. Et après, on a d'autres activités qui consistent, vous m'avez connu effectivement sous l'étiquette, je dirais, fabriquer et entreprendre, ce que j'ai un peu beaucoup lâché en fin d'année dernière et sur l'année 2024. Et donc voilà, il y a d'autres dispositifs qui sont rattachés à l'initiative, comme la fabrique, les fabriques, puisque maintenant on a Digne historiquement, et puis également un autre tiers-lieu sur Fort-Calquier, tout un tas de dispositifs qui sont rattachés à l'association, comme « Et pourquoi pas moi ?», comme un accompagnement des allocataires du RSA qui est BRSA 05. Voilà, il y a d'autres, toute la logique aussi, je dirais, événementielle et partenariale qu'il y a autour de l'association également. Ouais.
Actuellement, vous ne vous occupez plus de la fabrique à entreprendre, mais elle continue ?
Oui, bien sûr, oui, ça continue, effectivement. C'est ma collègue avec qui je suis dessus depuis quelques années maintenant, Gaëlle, qui reprend le flambeau, mais de moins en moins sur le dossier. Voilà, il y a une passation qui est en cours et enclenchée et qui continue encore jeudi, pour être concret avec vous, puisque c'est ça, forcément, les projets de territoire. Il faut pouvoir aussi transférer tout ce qu'on a dans notre cerveau et un peu dans notre cœur aussi, finalement. Et tout ce qui s'est passé sur les logiques partenariales. Et voilà, il y a tout un tas de choses à transmettre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc je suis, je dirais, officiellement plus sur le dossier et de temps en temps, effectivement, pour passer encore la main. Mais voilà, Gaël reprend ce flambeau-là. Et ça continue, effectivement, au sein de l'association, malgré, je dirais, l'ambiance générale de baisse budgétaire, finalement, qui impacte toutes les assos et tous les réseaux et toutes les entités associatives également. Quoi. Voilà.
Donc aujourd'hui, votre nouveau projet, votre nouveau titre, on va dire, de...
Oui, ça date de juin de l'année dernière, mais je suis responsable du pôle inclusion chez Initiative. Donc c'est un tout jeune pôle et tout frais également, même à l'échelle, je dirais, régionale et même au niveau national. C'est une évolution classique, finalement, des associations et on est venu, nous aussi, à réorganiser et à mettre en place une nouvelle réorganisation au sein de notre association et à créer finalement des pôles thématiques dans lesquels on va retrouver différents projets qui ont des éléments en commun, soit des thématiques communes, des publics communs à accompagner ou encore des partenaires et des financeurs communs. Voilà, il y a toute une logique derrière ça. Donc on pourra rentrer un peu dans le détail du pôle et du coup des projets qu'il y a juste en dessous à ce jour. Et voilà, donc ça c'est ma nouvelle casquette pour déjà 2024 et puis à fond sur 2025 également aussi.
Alors on va revenir sur faire un petit point sur Koh-Lanta,
oui.
Deuxième édition,
oui.
un Koh-Lanta de l'entrepreneuriat avec des jeunes de l'IUT. Si vous vouliez dire
oui.
quelques mots sur
oui.
la mise en place déjà de ce Koh-Lanta, même s'il a 2 ans.
Oui, c'était la deuxième édition effectivement du Koh-Lanta l'entrepreneuriat. C'est un projet qui est monté par le réseau Initiative, par notre association et principalement, je dirais, l'antenne de Digne, les équipes de l'antenne de Digne. Et on est venu avec l'IUT. Ça fait un moment en fait que, par ailleurs, je donne des cours avec un collègue aussi sur l'entrepreneuriat, etc. Donc, on gravite depuis un petit moment aussi avec les professeurs et les étudiants autour de ces thématiques-là. Et au fur et à mesure de l'avancement de ces rencontres-là, on est venu à monter, je dirais, une journée dédiée de challenge. Ça se fait beaucoup sur Marseille ou dans des universités où il y a beaucoup plus d'étudiants aussi. Donc on a dit, nous, pourquoi on le ferait pas aussi à Digne finalement ? Et donc effectivement, deuxième édition de ce Koh-Lanta entrepreneuriat. Alors je précise que Koh-Lanta, effectivement, c'est pas le vrai nom affiché puisqu'il est, c'est une marque déposée. Et on a voulu garder cette idée de Koh-Lanta puisqu'en fait, on met quelques épreuves dans la journée et quelques contraintes aussi. Donc il y avait cette idée de ne pas faciliter la tâche des étudiants pour sortir leur projet. Le but, c'est quoi en quelques mots, et après on pourra rentrer peut-être sur l'édition 2025 du coup. Le but, c'est donc un challenge étudiant qui vise à faire en sorte qu'en un temps très court, on ait un projet qui sort et nous, je dirais l'objectif, c'était qu'il soit réaliste et réalisable. En tout cas, c'est ce qu'on leur donne comme objectif au départ. Juste pour expliquer un peu la journée, comment elle se déroule, donc c'est une méthode de hackathon, qui est une méthode très précise avec des temps dédiés pour travailler sur telle et telle thématique et produire finalement en très peu de temps ce résultat. Donc dans la méthode, on a une mise en contexte pour les étudiants de la problématique, puisqu'en fait ils travaillent sur un sujet bien précis, et là c'était la redynamisation des centres-villes. Donc pour une catégorie de population qui est à la vingtaine, ça nous semblait intéressant de travailler sur cette thématique-là pour une deuxième édition. Donc on est resté sur cette thématique-là, on est venu donc temps de mise en contexte d'à peu près 45 minutes, 1 heure avec des techniciens ou des élus en lien avec ces thématiques-là. Donc on a eu la présence d'un élu de la mairie, Bernard Pierry, hein, qui est en charge de l'attractivité notamment au niveau de la ville de Digne-les-Bains. On a eu également Flore Ourier qui est en charge Action Cœur de Ville et donc chef de projet Action Cœur de Ville qui est venu nous présenter les enjeux un peu plus globaux, je dirais, de cette problématique-là. On a eu le co-président également de l'Association des commerçants qui est venu nous présenter Joris qui nous présentait effectivement finalement sa problématique de commerçant et représentait la voix un peu des autres commerçants de la ville. Et puis il y a Julie également Martinez qui est chez nous et qui est au sein de l'association, qui a un dispositif qui s'appelle Mon projet de boutique et qui a une action qu'on porte nous chez Initiative dans la rue de Lubac et donc dans le centre-ville. Donc voilà, il y a eu cette mise en contexte au démarrage et puis après on les a lancés sur le challenge, donc, et avec des étapes précises, une première étape d'idéation, une première étape d'empathie, donc se mettre à la place de la personne qui viendrait en centre-ville de Digne, donc pour pouvoir essayer d'imaginer ce qu'on aimerait ressentir, ce qu'on aimerait voir, ce qu'on aimerait peut-être aussi acheter, etc. Donc une phase d'empathie dans un premier temps, et puis une phase d'idéation derrière, donc là, je dirais que c'est pour passer de l'idée au projet, donc on vient construire ce projet-là, et puis l'après-midi, on vient plutôt travailler sur ce qu'on appelle le business model canevas en gros mots d'entrepreneur, et en fait, c'est tout un tas d'éléments comme les partenaires clés, les valeurs qu'on souhaite développer, mais aussi les ressources humaines, financières, etc., qu'on va aller chercher pour mobiliser ce projet-là. Et puis après, la toute dernière phase, c'est la présentation du projet. Et donc là, ils viennent à construire leur présentation, leur discours, leur pitch, finalement. Et en vue du passage devant le jury en fin de journée. Et donc là, c'est ponctué par un peu des contraintes. Donc certains étaient attachés. Le hasard a fait ces choses-là. Puis il y a une contrainte aussi une épreuve alimentaire. Je ne sais pas si vous connaissez le Koh-Lanta pour certaines et certains d'entre vous, mais il y a une épreuve qui est historique sur l'émission Koh-Lanta, qui est une épreuve de dégustation avec des produits qui ne sont pas forcément très, très agréables. Et donc là, alors tout était comestible hein, chez nous, mais il y a eu notamment des insectes apéritifs à manger pour, voilà, dans un temps record, et ça leur donnait droit à des avantages pour la suite du challenge. Voilà, en gros, comment ça se déroule. Ils étaient une quarantaine d'étudiants sur cette deuxième édition, 41, il me semble. Donc, voilà, et chaque membre de l'équipe, en fait, on divise ce groupe d'étudiants. Là, il y a eu 6 équipes, que je ne dis pas de bêtises, voilà, 6 équipes d'étudiants. Et il y a à chaque fois donc l'antenne de Digne qui participe et aussi une collègue, donc Gaëlle de la Fabrique aussi, de Fort-Calquier, et Audrey, sa collègue également de Fort-Cal, qui est venue animer finalement le groupe d'étudiants tout au long de la journée. Et en plus de ça, c'est pour ça que c'est un gros événement pour Initiative, on a également nos partenaires un peu historiques qu'on vient mobiliser, puis nos bénévoles au niveau de l'association. Et donc qui gravitent tout autour des groupes toute la journée pour apporter leur expertise, leur regard d'anciens chefs d'entreprise ou d'actuels chefs d'entreprise, ou alors les spécialistes de la com qui peuvent aussi apporter leur regard sur la présentation de l'après-midi ou l'angle d'attaque. Où on avait aussi la présence de France Travail ou de la BGE, donc Accès Conseil, qui est un de nos partenaires qui est en permanence chez nous à Dignapolis, la Fabrique, et voilà, et qui est venu apporter cette structuration de projet. Donc c'est une grosse, très grosse journée à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les équipes, les bénévoles et les partenaires du réseau Initiative. Ouais.
Donc on rappelle, c'est des étudiants qui sont en troisième année de GACO, c'est-à-dire gestion administrative, commerciale des organisations.
Exactement. Ouais.
Et en général, ils se prêtent vraiment bien au jeu. C'est vrai que c'est un challenge difficile en une journée de voir les financements possibles, les idées. Et donc les gagnants, c'était All Sport, c'est ça,
hein, c'est le projet.
Sur une salle de sport en centre-ville avec...
Oui. Une multitude d'activités et d'offres de services dans ce lieu-là. Donc ça, c'est effectivement les grands gagnants. On a eu...
Il y a eu des deuxième et troisième prix ou...
Alors, il n'y a pas eu de deuxième et troisième prix, mais effectivement, il y a eu un classement sur les étudiants. On a eu des projets... On a eu deux projets un peu similaires, mais sur des thématiques différentes, qui étaient des packs...
Wonderbox, là.
Oui, exactement. Ça ressemble effectivement à ça, et donc plutôt autour du sport pour l'un, et l'autre plutôt autour du tourisme, en général. On a eu un projet de halles aussi, des halles couvertes ou semi-couvertes en centre-ville de Digne pour ramener de l'activité un peu plus quotidiennement, finalement. Donc très chouette projet. On a eu un projet associatif aussi de café associatif également qui est sorti. Et puis on a eu aussi le grand gagnant qui était Old Sport, donc un lieu dans lequel on retrouvait des médecins du sport, on retrouvait de la vente de produits dédiés au sport aussi, de vêtements, etc.
Et bien sûr une salle d'entraînement.
C'est ça, exactement. Donc un projet qui colle bien plutôt effectivement au territoire et à la ville de Digne, qui n'existe pas dans le centre-ville, et cette offre de service effectivement n'existe pas dans le centre-ville. C'était le challenge, en tout cas un des challenges notamment du co-président qui est venu amener cette idée qu'il y avait peut-être des offres manquantes des offres de service en commerce manquantes sur le territoire de Digne, et ils se sont un peu emparés de ce sujet-là en disant, mais de toute façon on ne pourra pas faire venir des grandes enseignes, c'est plus d'actualité de faire venir des grandes enseignes comme H&M ou Primark ou d'autres grandes enseignes de vêtements notamment. Et donc voilà, l'idée c'est d'inventer notre propre offre de service, et là pour le coup une offre un peu mutualisée qui mélange des publics, du service mais en même temps de la vente de produits aussi. Voilà, très intéressant en tout cas dans leur présentation, ce type de projet. Ouais.
Et ce qu'il en ressort, c'est que, est-ce que ça donne envie à ces étudiants qui ont planché là-dessus de devenir entrepreneurs plus tard ?
Oui, nous, c'est vrai que la philosophie à la fois des cours et de ce type d'événement, on est énormément sur une forme de sensibilisation, de montrer que c'est possible, de montrer qu'entreprendre, à partir du moment où on est accompagné eh ben, finalement, c'est à la portée quasiment de tout le monde. Et c'est nous, on voit tout type de profil, tout type de public. Même des publics qui sont parfois éloignés aussi de cette sphère-là, d'un point de vue entourage ou ami. Et donc nous, l'idée, c'est de leur donner en tout cas l'envie, à un moment donné, c'est une forme un peu de petite graine là, qu'on pose et qui peuvent saisir tout au long de leur parcours. Pour certains, ils vont arrêter les études, pour d'autres, ils vont continuer aussi. Donc ça dépend tellement du parcours d'accompagnement. Moi, l'idée, c'est effectivement ça. Et puis, nous, on l'a vu dans nos cours, mais ils ont pas forcément l'habitude de ce format de cours, finalement. Et nous, on n'appelle pas ça des cours, d'ailleurs. Et pour nous, on leur donne plutôt une méthode, on leur donne plutôt un dynamisme. De leur montrer que, l'idée pour nous, c'est de leur dire vous savez pas tout, il n'y a pas la théorie, mais montrez-nous que vous savez aller chercher, que vous avez cette capacité de croiser des informations, de construire quelque chose en partant un peu de rien, et soyez créatifs. Voilà, c'est un peu des choses comme ça qu'on veut leur donner aussi. C'est vrai que des fois, sur certains référentiels de cours, et ben on oublie un peu ce côté créatif. Ouvert dans la construction des cours, on est sur le résultat qu'il faut absolument avoir, et on est moins sur finalement le chemin qu'on parcourt pour arriver au résultat, qui est pour nous super important, en tout cas d'un point de vue association, et même ça peut peut-être faire le lien aussi, avec ce que je porte aujourd'hui au sein de l'inclusion. Le chemin, il est très important, tous les freins à lever, toutes ces petites graines posées, et puis montrer qu'on s'est capable de faire un retour sur ce qu'on a pu sortir en si peu de temps, et aussi le travail en groupe, parce qu'il faut pouvoir se mettre en situation de travailler en groupe avec des personnes qu'on ne connaît pas, parce que là il y a le hasard qui fait les choses aussi.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'ils démarrent avec des personnes, en tout cas des étudiants qui connaissent moins, parce qu'il y a deux, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément précisé, mais il y a deux classes. Il y a une classe qui est une partie des étudiants qui sont en apprentissage. Il y a une partie qui sont en continu de cours, et donc qui se croisent par des cours bien précis, mais forcément il y a la cohésion qui est plus ou moins là en fonction à la fois des cours et puis forcément des affinités. Donc nous, là dans les cours, enfin là dans la journée de Koh-Lanta en tout cas, on les fait travailler, et en fait ils décident pas, c'est le hasard qui fait les choses, donc ils se retrouvent avec des personnes qu'ils connaissent moins aussi.
Ah oui, donc ça crée du lien aussi, c'est bien.
Exactement, ça crée du lien, et ça montre qu'en fait un peu au quotidien et dans ce qu'ils vont retrouver dans leur vie après, c'est qu'ils vont bosser avec des gens avec qui ils n'ont pas forcément envie de bosser, et c'est un peu tout ça qu'il faut aller mobiliser, de se dire on est en collectif, on a un objectif à atteindre, il faut qu'on réussisse au mieux, la répartition des tâches, quand on est sous pression, finalement on doit réfléchir et rapidement se dire comment on fonctionne, etc. Donc c'est plein de choses qui viennent à être animées à ce moment-là, au-delà de la sensibilisation à l'entrepreneuriat, et voilà.
Donc ils ont été notés pour ce travail, il y avait des représentants, enfin des professeurs.
Oui.
Est-ce que des professeurs faisaient partie du jury ou...
Tout à fait,
Qui composait le jury?
Oui, c'est une bonne... effectivement, c'est bien d'avoir ce retour-là. J'ai parlé effectivement des partenaires et des bénévoles mobilisés sur la journée, je les ai présentés. Là, on a... le jury était composé effectivement de leur prof principal, Isabelle Magnès, qui est à l'IUT. Et avec qui on a travaillé sur cette journée de Koh-Lanta. Et après, c'était plutôt composé d'entrepreneurs. Entrepreneurs, essentiellement, ou de coworkers de l'espace coworking de Dignapolis, ou les deux, parce qu'ils sont parfois les deux. Donc on avait deux femmes entrepreneurs et deux entrepreneurs, Benjamin Maxent, Yann Navarro. Benjamin Maxent qui est photographe sur le secteur, Yann et qui est également coworker, Yann Navarro qui était également coworker et qui travaille dans les assurances, les prévoyances, etc. auprès des entrepreneurs, donc qui intervient chez nous plutôt sur la partie accompagnement des entrepreneurs une fois créé, mais ça s'anticipe en amont. On avait Cyrielle également qui est avec son conjoint qui a une entreprise de menuiserie, et elle réalise la partie plutôt créative et d'aménagement de l'espace. Et puis on avait également une autre entrepreneur qui était plutôt là dans le domaine de l'accompagnement des structures entreprises ou associations autour de la gestion financière de leur activité. Donc Caroline Reynard qui était au jury également. Donc ça faisait déjà un beau jury de professionnels qui n'ont pas du tout suivi les projets tout au long de la journée et qui découvraient les projets au moment de la présentation, donc en fin de journée vers 17h. Voilà, et notre président de l'association est venu clôturer cette journée avec quelques mots bienveillants et je dirais plutôt agréables pour les étudiants aussi, pour les remercier de leur travail et auprès des équipes et des bénévoles aussi de l'association. Ouais.
Une belle aventure qui va se poursuivre chaque année.
Oui,
avec des thèmes. En tout cas, le thème redynamisation du centre-ville, c'est un thème qui sera toujours à explorer.
Oui, effectivement, c'est un vrai sujet pour beaucoup de villes en France et de villes moyennes, en tout cas, ou de villes comme Digne-les-Bains. C'est un vrai sujet pour tout le monde. Mmh. Et oui, il est presque intemporel et encore plus d'actualité chaque année, finalement. Mmh. On verra si c'est la même thématique sur l'année prochaine, peut-être que ça changera. En tout cas, au vu des conclusions et de ce qui se passe et du bilan qu'on peut faire du Koh-Lanta, c'est tellement une chouette journée que ce serait effectivement bête que ça s'arrête, en tout cas gênant que ça s'arrête pour la suite, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et puis il peut se passer d'autres belles choses aussi en lien avec ce type de challenge. Mm.
Charlie Divry, donc responsable du pôle inclusion à Initiative. Oui. Vous allez nous parler de en quoi consiste ce nouveau travail, donc avec un nouveau dispositif.
Oui, bah merci déjà Odile de ton invitation pour venir présenter ce sujet qui est assez récent au sein de l'association, les projets pas forcément, puisqu'ils étaient déjà là, les projets, mais donc sous le pôle inclusion porté par Initiative Alpes-Provence, on va retrouver le dispositif « Et pourquoi pas moi ?» qui est sorti de terre en 2022 par notre association, qui vise à proposer un accompagnement de remobilisation des allocataires du RSA sur le département des Alpes de Haute-Provence. Donc c'est un dispositif en lien et financé et cofinancé par le département du 04, mais également les financements européens, donc le FSE+, notamment, qui s'est terminé en 2024, mais on va renouveler sur l'année 2025 et on espère au-delà. Donc la spécificité de ce dispositif, on a des conseillers en insertion professionnelle qui viennent accompagner de manière individuelle les allocataires du RSA. Donc sur la période 2023-2024, juste pour vous donner un peu ce que ça représente, on a accompagné 310 personnes sur les deux dernières années, accompagnées, je dirais, avec un vrai parcours d'accompagnement les 310 personnes. Et au-delà, en fait, on reçoit près de 400 personnes sur les deux années. Nos CIP reçoivent près de 400 personnes, mais 310 en accompagnement avec une entrée et une sortie. Certains sont encore en cours et continuent sur 2025. Donc la spécificité, au-delà de l'accompagnement individuel, c'est qu'on a une partie dans l'accompagnement qui vise à passer par des étapes de coaching. Donc on a trois journées de coaching avec Proattitude, qui est notre partenaire, en tout cas sur cette partie de coaching, qui vise, vous voyez bien, l'idée du coaching, c'est de travailler, d'aller chercher vraiment plus profond dans le cadre de cette remobilisation de projets professionnels, mais aussi personnels. Et bien finalement, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je veux développer dans l'avenir au sein de mon projet professionnel et de vie aussi.
On revient sur les bilans de compétences approfondis,
oui,
en fait.
Oui, c'est ça, et avec des techniques de coaching qui viennent à pousser aussi des blocages et en collectif. C'est ça l'intérêt aussi, c'est qu'on est sur du collectif. Donc en fait, il y a une dynamique de groupe qui se met en place, qui peut se mettre en place, parce que c'est sur trois journées. Donc on a trois journées espacées, une journée par semaine, donc c'est sur trois semaines, notamment. Et donc voilà, on vient déclencher des choses et notamment réaliser, au bout de la troisième journée, son plan d'action, que reprend le CIP, donc le conseiller en insertion professionnelle, donc François et Marion, qui sont répartis sur le 04, qui viennent à reprendre un peu ce projet-là, et qui viennent à travailler un peu plus, je dirais, les aspects techniques ou les levées de freins autour de la mobilité. Les CV, voilà, il y a tout un tas de choses très concrètes, je dirais, derrière. Ou alors reprendre le parcours de coaching sur des points qui n'ont pas été encore élaborés, hein. Construisent leur arbre de vie, voilà, avec des sujets, parce que tout est lié finalement, c'est ce qui est évoqué dans cette partie de coaching, c'est qu'on ne peut pas séparer le projet personnel du projet professionnel, c'est forcément lié, on peut le dissocier dans le cadre de son travail, je dirais de manière très concrète avec les horaires, etc. Mais tout est lié, quoi. Si on ne retrouve pas du sens dans le projet professionnel, c'est peut-être parce que aussi le projet de vie, il est pas en accord, etc. Donc on vient questionner ça et aller vers du très concret à la fin de ces trois journées. Donc ça, c'est « Et pourquoi pas moi ?». On est très fiers de cette action-là parce que c'est la première, je dirais, autour de l'inclusion pure qui vise l'inclusion. C'est quoi finalement ? Ça vise à faire en sorte que l'environnement dans lequel chacun de nous est, puisse être adapté à chacun de nous, finalement. Et donc, nous, on vient construire un accompagnement qui est un peu différent auprès du public des allocataires du RSA pour faire en sorte que on travaille le projet professionnel, mais avec tout type de public, avec toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et voilà, donc on change l'environnement de l'accompagnement pour produire finalement un projet professionnel derrière. C'est un peu ça la philosophie. J'espère que j'ai été à peu près clair sur...
Oui. Bon, ce n'est pas 310 personnes accompagnées qui vont finir entrepreneurs. Le but, c'est qu'ils trouvent un peu leur vocation.
Tu as raison de le préciser, Odile. Oui. Effectivement, pas du tout. On a trois types de sorties positives.
On n'est pas tous... prêt à devenir entrepreneur. Déjà de trouver un travail qui nous convient.
Exactement, il y a plusieurs types de sorties. On a une sortie qui va être de l'ordre de la formation, c'est-à-dire qu'on identifie pendant l'accompagnement qu'il faut d'abord passer par une étape de formation un peu plus complète avant d'aller vers l'emploi derrière. Ou alors c'est l'emploi, c'est-à-dire qu'à la sortie de l'accompagnement, les personnes trouvent un emploi derrière, ou alors effectivement c'est un parcours, puisqu'en fait nous derrière l'idée c'est de les envoyer vers un parcours autour de la création d'entreprise, et là on rentre dans notre cœur de métier initiative, donc ça, le chemin continue pour eux, mais il y a une sortie de l'accompagnement qui vise à rentrer dans un parcours de création derrière. Donc ça c'est les trois sorties qu'on appelle dynamiques ou positives, et après il y a d'autres sorties quand même qu'il faut évoquer qui sont... on ne peut pas appeler des sorties négatives, mais en fait l'accompagnement permet de mettre le doigt sur tout un tas de sujets, et notamment souligner, en fait, il faut d'abord que j'ai mon permis avant de pouvoir...
Ça, c'est capital. Et le permis est aussi un moyen de locomotion.
Exactement.
Parce que pas tout le monde a les moyens aussi d'acheter une voiture.
C'est ça, tout à fait. Donc, donc là, on vient mobiliser d'autres partenaires sur cet angle-là. Il peut y avoir aussi des problématiques de santé qui sont, OK, elles sont identifiées, mais elles ne sont pas travaillées. Donc, on va travailler avec eux sur de la levée de ces sujets autour de la santé. Et donc, en fait, toutes ces sorties qui ne sont pas considérées comme positives au regard des trois autres que j'ai pu évoquer, finalement, elles le sont quand même, parce que sinon, la personne n'avance pas si elle n'a pas levé, identifié ces éléments-là. Donc, nos CIP et le parcours permet ça aussi. Donc, c'est beaucoup plus large. Je dirais l'accompagnement et tout ce qu'il peut produire derrière. On a à peu près aujourd'hui, en tout cas sur les dernières statistiques, une personne sur deux accompagnée qui sont en sortie positive, comme je les ai évoquées là. Et les autres personnes, elles lèvent quand même d'autres sujets sur leur projet, quoi.
Parce que pour avoir entendu une personne de Pôle emploi... France Travail maintenant, c'est vrai, il faut que je me mette au goût du jour. Oui. Du travail dans le département, il y en a, mais pas forcément dans les voies. Il faut se former pour ce travail-là.
Exactement, et c'est plein d'étapes finalement. C'est soit un peu de formation, c'est soit prendre conscience que finalement l'emploi qui ne correspond pas là à l'instant T, ou alors à mon CV, je ne l'avais pas imaginé. Donc en fait, on met le doigt sur le fait que, c'est peut-être un emploi alimentaire dans un premier temps, mais ça va te permettre de travailler sur ton projet à long terme. Enfin, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles on vient à mettre du lien finalement. Et petit à petit, les personnes reprennent goût aussi à l'activité en général, etc.
Donc les partenaires, il y en a beaucoup.
Oui. France Travail, les services du département, toutes les antennes, je dirais, du département qu'on appelle les STAS, qui viennent, donc toutes les assistantes sociales, qui viennent à travailler avec nos CIP de manière opérationnelle. Le département, effectivement, j'en ai parlé. L'État aussi, bien évidemment, qui travaille avec nous là-dessus. Et le réseau pour l'emploi, en général, donc en partie France Travail, mais on va retrouver Cap Emploi, qui est autour du handicap. Voilà, il y a tout la MSA également, ou d'autres accompagnateurs ou accompagnatrices du public allocataire du RSA sur le département.
Donc le public qui vient vous voir, sont déjà guidés par France Travail et...
Tout à fait, exactement. Donc la prescription, elle se fait uniquement par des partenaires et le lien qu'on a avec les partenaires, effectivement. Voilà, pourquoi pas moi.
Voilà, merci Charlie. Est-ce qu'il y a des choses importantes à rajouter avant qu'on rende l'antenne?
Effectivement, il n'y a plus beaucoup de minutes, mais après il y a d'autres projets, effectivement, sous le pôle inclusion qui est en lien avec le pôle. On y reviendra peut-être à un autre moment, mais on a un autre public qu'on accompagne aussi sur le Nord 05. Enfin, c'est d'autres publics allocataires du RSA, mais qui, eux, sont déjà immatriculés pour partie ou en projet, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir eu cet accompagnement-là et qui sont allocataires du RSA. Donc c'est Mélina qui travaille à les accompagner à ce sujet-là, en lien avec le département et également les autres partenaires. On a le CitéLab aussi, sur lequel on pourra revenir, qui est un accompagnement quartier politique de la ville autour de l'entrepreneuriat. Et donc, il y a des choses qui sont prévues cette année aussi autour du CitéLab sur Digne-les-Bains, mais pas que, avec le quartier politique de la ville de Digne-les-Bains, mais aussi celui de Manosque. Et on va retrouver également sous le pôle, on en parlait tout à l'heure, l'importance de la formation, qui est un projet un peu particulier et qui nécessiterait peut-être du temps d'antenne un peu plus long, mais qui est Définov, qui est une action autour de la formation au sein des tiers-lieux qu'on a identifiés, donc nous, Digne, Forcalquier et Saint-André-les-Alpes. Donc Définov qui vise à faire découvrir les métiers et les filières en tension sur le département. Donc on a un consortium d'organismes de formation qui fait partie et qui anime ce dispositif. Et donc on est sur des ateliers très pratiques, très ludiques, sur des demi-journées qui viennent à faire découvrir les métiers, dans le but de faire entrer les personnes qui ont découvert les métiers en formation derrière et du coup d'aller vers l'emploi et les filières en tension sur le territoire. Vous voyez bien déjà en disant ces quelques mots qu'il y a du chantier, il y a pas mal de choses à faire autour de ça. Et avant qu'il y ait de vrais résultats, voilà, il y a un gros travail. Donc c'est un projet qui est expérimental sur le 04 pour nous et qui vise à identifier des pistes et des façons de travailler, à faire rencontrer des OAF qui ne seraient pas rencontrés, etc. Il y a tout un tas d'autres logiques aussi derrière et à amener aussi des sujets de formation sur des espaces comme le tiers-lieu des petits bureaux à Saint-André, qui est un territoire sur lequel il n'y a pas d'organisme de formation, sur place. Et donc voilà, il y a plein de logiques autour de Définov. Aussi derrière, quoi. Voilà. Pour le pôle inclusion et peut-être d'autres projets à venir aussi.
Donc le pôle inclusion, oui, il y a beaucoup de choses. On appelle ça quoi ? Des dispositifs ? Des outils
Oui, c'est des dispositifs effectivement qui sont portés sous le pôle et qui sont en gestion. C'est des projets en gestion sous le pôle. Et après, derrière, il y a beaucoup de collaborateurs qui contribuent à tout ça de manière opérationnelle au sein de notre association. Et puis tout un tas de partenaires qui sont parfois en lien sur plusieurs dispositifs aussi. Vous retrouverez une petite vidéo. Je sais que Odile, on a une petite vidéo sur Et pourquoi pas moi qui illustre très très bien comment fonctionne le dispositif et qui vient présenter des parcours de personnes qui ont été accompagnées, mais aussi nos CIP qui sont là au quotidien sur l'accompagnement. Et également Proattitude qui vient présenter le dispositif. Donc ça illustre assez bien, c'est difficile de vraiment illustrer en quelques temps. Il faudrait prendre un temps peut-être sur chaque dispositif avec du témoignage et de montrer, l'intérêt aussi des dispositifs sur chaque territoire. On a un vrai enjeu de structuration au sein de faire les choses dans la durée et venir à structurer ces projets-là aussi dans la durée au sein de notre association. Merci en tout cas Odile.
Merci Charlie Divry. Et puis, il y a tellement à dire qu'il faudra revenir. Merci encore d'être venu sur notre antenne.
Merci à toi aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le MAG Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.